Vous écoutez
RMC.
Lundi 8 juin,
l'info sur RMC.
Il est 6h, Céline Kallmann est là pour vous, les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. À quand un retour à l'école comme avant? À 4 semaines du début des grandes vacances, les élèves n'ont repris que partiellement. Le conseil scientifique est favorable à des règles moins strictes, notamment pour les repas, les récréations et le sport. Quel dispositif pour remplacer le chômage partiel? Les partenaires sociaux débutent cette semaine des discussions avec le gouvernement. Objectif donc éviter les plans sociaux, maintenir le pouvoir d'achat des salariés. La police de Minneapolis démantelée, c'est l'info de la nuit aux États-Unis. 15 jours après la mort de George Floyd, la contestation contre les violences policières et le racisme s'est poursuivie tout le week-end partout dans le monde. Bienvenue à tous sur RMC. Il reste 4 semaines avant le début des grandes vacances, 4 semaines d'école, ou plutôt 8 jours seulement si vos enfants ont cours 2 jours par semaine. Les règles sanitaires très strictes depuis la semaine du 11 mai devraient être allégées. C'est ce que pense le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Il était hier soir sur BFM TV.
Il est assez raisonnable de se dire maintenant qu'avec les connaissances que nous avons, on pourrait peut-être alléger un peu, en particulier la vie périscolaire. On est là finalement dans quelque chose où on apprend en marchant, où les familles qui ont eu peur et qui étaient relativement réservées sur l'ouverture des écoles également, maintenant elles réclament dans une certaine mesure qu'on y ait un peu de souplesse. Et je crois qu'on pourrait mettre peut-être un peu de souplesse sur ces aspects périscolaires et peut-être même sur l'organisation des classes elles-mêmes.
Alors question, le gouvernement compte-t-il finalement changer les mesures drastiques mises en place? A priori, ce n'est pas pour demain, sachant qu'il reste 4 semaines donc avant les grandes vacances. Pierre-Yves Bonneau.
Nous espérons alléger le protocole sanitaire dans le courant du mois de juin. Propos de Jean-Michel Blanquer ce week-end. Le ministre de l'Éducation pressé de toutes parts pour assouplir des mesures anxiogènes pour les enfants. Selon une députée de la majorité, cette spécialiste des questions d'éducation propose notamment de rétablir de vraies récréations avec la possibilité de jouer au ballon dans la cour. Autre piste, lever ou augmenter la limite de 10 ou 15 élèves par classe, le plus vite possible mais pas tout de suite, selon le ministre qui a rappelé à l'ordre ce week-end les écoles privées sous contrat, elles avaient d'elles-mêmes décidé d'accueillir plus d'élèves en classe. De son côté, Matignon temporise et précise que la phase 3 du déconfinement dans les écoles prendra en compte l'évolution du contexte sanitaire. Rien ne devrait donc changer avant le 22 juin. Il ne restera alors que 2 semaines de cours avant les vacances d'été.
L'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas dans notre pays. 13 personnes sont décédées à l'hôpital. Plus faible bilan depuis mi-mars. Le nombre de personnes hospitalisées continue de reculer, tout comme ceux admis en réanimation. L'aéronautique, secteur comme celui de l'automobile, frappé de plein fouet par la crise. Le gouvernement doit annoncer demain un plan d'aide de l'ordre de 10 milliards d'euros. Chiffre révélé par le journal Les Échos, qui précise que le plan concerne des mesures en faveur de l'emploi et de l'obtention de crédits, mais aussi la création d'un fonds d'investissement pour consolider la filière, ainsi qu'un nouveau plan de soutien à l'innovation et à la recherche. Quelle aide plus générale pour les entreprises en difficulté? Le chômage partiel, qui concerne aujourd'hui plus de 13 millions de salariés, coûte trop cher aux caisses de l'État, 30 milliards d'euros. Début cette semaine, des discussions entre partenaires sociaux et gouvernement pour mettre au point le dispositif qui remplacera le chômage partiel le mois prochain. Victor Joannin.
Nom de code, ARM, le sigle d'activité réduite pour le maintien de l'emploi. Entreprises concernées par ce dispositif, toutes celles dont le retour à la normale sera lent et qui devront faire face pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, à un carnet de commandes sinistré, par exemple dans l'automobile ou l'aéronautique. Ces entreprises pourront réduire le temps de travail et donc les rémunérations de leurs salariés. Et pour ces derniers, l'État compensera une partie de la perte de pouvoir d'achat. Une partie seulement, à condition que l'entreprise s'engage à ne pas licencier. Un dispositif donnant-donnant qui a déjà été adopté au Parlement, mais dont les détails vont donc être discutés avec les partenaires sociaux qui sont plutôt favorables au principe. L'exécutif veut en tout cas aller très vite. La concertation doit aboutir dans une semaine.
RMC 6h04, la police de Minneapolis va être démantelée, annonce cette nuit des conseillers municipaux 2 semaines après la mort de George Floyd. Un nouveau modèle de sécurité publique va être mis en place. Le candidat démocrate à la présidence américaine, lui, va se rendre à Houston, Texas. Joe Biden va y rencontrer la famille de George Floyd, dont les funérailles vont se dérouler demain. 2 semaines après sa mort, les manifestations contre les violences policières et le racisme se sont poursuivies tout le week-end et ont gagné de nombreuses villes partout dans le monde. Margot Bédé.
sur le perron de l'hôtel de ville de Sydney en Australie, des dizaines de milliers de manifestants. Derrière le micro, Paul mène les chants protestataires.
La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de s'unir, se retrouver tous ensemble et finalement se battre pour une chose aussi simple que les droits de l'homme.
Je ne peux pas respirer. De l'autre côté du globe, en Espagne, des milliers de personnes scandent cette phrase prononcée par George Floyd lors de son arrestation devant l'ambassade des États-Unis à Madrid. Alba, étudiante de 18 ans, a rejoint la manifestation.
Quand j'ai vu la vidéo du meurtre de George Floyd, j'ai ressenti beaucoup de peine. Je me suis dit, je dois faire quelque chose.
Image symbolique, ce dimanche à Bristol, au sud-ouest de l'Angleterre, la statue du négrier Edward Colston est arrachée de son piédestal. Galvanisée, les manifestants se ruent dessus, la piétinent et la roulent au sol. La statue de ce marchand d'esclaves du XVIIe siècle terminera finalement sa course au fond de la rivière Avon.
Et à Bruxelles, près de 10 000 personnes ont manifesté devant le palais de justice. Hier, des violences ont éclaté après le rassemblement. 150 personnes ont été arrêtées. Dans l'actualité également, hier soir, deux blessés par balle, dont un très sérieusement touché à Ajaccio. Un tireur est entré casqué peu après 22 heures dans une brasserie. Il a tiré à plusieurs reprises sur deux hommes qui étaient attablés. Une énorme surprise pour les fans de rugby et notamment du 15 de France, Jefferson Poirot, le pilier gauche des Bleus, annonce sa retraite internationale à seulement 27 ans. Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles va désormais privilégier sa vie privée. Nicolas Paolarsi.
Oui, et pourtant, il y a 6 mois, à la sortie de la Coupe du Monde au Japon, Jefferson Poirot faisait partie des grands favoris pour récupérer le brassard de capitaine. Poirot, 36 sélections, arrête les Bleus. Il veut désormais être un papa à temps complet. Cette décision me permettra de ne plus avoir la sensation d'être à 50% sur tous les fronts et de me recentrer sur un objectif à 100%. Le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles veut également se recentrer sur son club sportivement. L'objectif qui m'obsède de plus en plus, c'est de gagner des titres en club, de passer un cap dans ma carrière de joueur. Pour l'équipe de France, un groupe extrêmement rajeuni depuis le dernier tournoi Destination, l'arrêt de Poirot d'un joueur d'une grande expérience internationale est un coup dur dont il va falloir se relever.
Nicolas Paolarsi, ça y est, je l'ai bien dit. C'était le premier week-end de déconfinement total sans restriction de kilomètres. Nous avons assisté aux retrouvailles de Marie-Claude et de sa famille qui a parcouru toute la France pour la revoir, de Béthune dans le Nord jusqu'à Marseille. Florian Chevalet.
Cela faisait 6 mois que François attendait de pouvoir embrasser sa maman.
Depuis Noël, on n'avait pas pu, ça fait plaisir.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est au restaurant que Marie-Claude retrouve son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants.
Vous n'êtes pas trop fatigué ?
Pas quand même. Il y a 1000 kilomètres. Si on a voyagé de nuit pour voir personne, on a évité les petites aires de repos. Oui. On n'a fait que les grandes. Pipi nature, quand on pouvait, au moins pas de risque.
Oui, ça me fait plaisir de les voir parce que je me dis que la vie file et que bientôt je ne les verrai plus.
Marie-Claude vit à Marseille, loin de ses enfants et petits-enfants qui vivent à Béthune, dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour son fils François, la levée des 100 km marque aussi le retour au pays.
On ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir revoir notre ville. Et là, on est bien content.
Et le soleil, la mer, les petits-enfants, pas de cuisine à faire, tout était parfait.
Pour que le bonheur soit total, Marie-Claude attend maintenant sa fille. Elle arrivera demain de Valoris dans les Alpes-Maritimes.
Voilà, comme ça, toute la famille sera réunie.